Si vous le voulez bien, nous allons reprendre. Alors, aujourd'hui, nous accueillons pour cette seconde partie Jacques Dubois. Jacques Dubois était longtemps professeur à l'Université de Liège. Il est un grand connaisseur du naturalisme et notamment de Zola, un grand connaisseur également du roman policier, et il a assez récemment, en 2003, publié, édité la Pléiade de Simenon. Il a publié un nombre important d'ouvrages, je voudrais en citer quelques-uns. Bon, il a fait beaucoup de travaux qui sont orientés vers la sociologie de la littérature. Il y en a un qui s'appelle « L'institution de la littérature », notamment, publié en 1978. Mais ce n'est pas pour ce fil-là de ses travaux que nous l'avons invité aujourd'hui. Il a publié deux derniers ouvrages. Ces deux derniers ouvrages m'ont beaucoup intéressé. Et c'est ce qui explique que j'ai souhaité qu'il vienne dans ce séminaire. L'un, publié en 1997, est intitulé « Pour Albertine, Proust et le sens du social ». Et c'est un très beau livre sur le personnage d'Albertine et ce moment de la recherche du temps perdu, souvent laissé de côté, avec une thèse qui me satisfaisait personnellement beaucoup en faisant d'Albertine et du moment d'Albertine la véritable modernité de l'œuvre de Proust. Et puis l'année dernière, un livre sur Stendhal, une sociologie romanesque, qui a donc pour objet un écrivain qui, dans ses réflexions sur la morale, m'a bien servi et je me suis inspiré pour ce retour. Donc il y a au moins ces deux raisons pour l'accueillir aujourd'hui. Et son titre est « Petite sociologie morale dans la recherche ».
Merci et bonjour. Oui, je remercie Antoine Compagnon et de son invitation et de son accueil si cordial. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Je suis heureux de renouer en cette circonstance avec Marcel Proust et je suis content de vous promener dans la recherche du temps perdu à la recherche de petites sociologies qui seront peut-être morales, on le verra. Ravi, heureux, content, je n'ai fait jusqu'ici que citer Proust, ou plus exactement Madame de Cambremer, la mère, mais nous y reviendrons. L'œuvre de Proust, écrivait Roland Barthes en 1971 dans un article auquel j'aurai l'occasion de revenir, est plus sociologique qu'on ne dit. Elle décrit, dit-il, avec exactitude, ce qui est peut-être un peu forcé, la grammaire de la promotion de la mobilité des classes. Aujourd'hui, je pense, Barthes n'aurait plus à le faire remarquer, tant il me paraît acquis que la recherche entretient un commerce permanent avec la sociologie, avec les sciences sociales, si vous voulez, comme avec d'autres disciplines, peut-être de façon plus évidente encore, on vient de le voir à propos de philosophie. Peut-on néanmoins parler en toute impunité de sociologie de Proust ? Si j'use de la formule, si je la conserve, c'est toutefois en l'entourant de précautions. De là, le petite sociologie de Proust, et le mot petit est le pluriel, que j'ai réservé au titre de ma communication. Et c'est façon de dire qu'à cet égard, le romancier n'est jamais systématique, par bonheur d'ailleurs, qu'il ne prétend pas à la théorie et qu'il ne délivre un savoir de nature sociale qu'avec les moyens du romancier, dont le meilleur de la pensée s'exprime dans le singulier, le concret, le local, etc. Nous venons de voir d'ailleurs que les exceptions pouvaient exister, et dans le cas de la sociologie ou des sciences sociales, elles n'étaient d'ailleurs pas tout à fait étonnantes, si l'on songe que d'une part, la recherche du temps perdu s'écrit à l'époque où Émile Durkheim fonde la sociologie, Et à une époque où Proust lui-même lit Gabriel de Tardes, qui est un sociologue de l'imitation, qui demeure respecté aujourd'hui. Mais pour en revenir à cette idée que le romancier a ses moyens à lui pour faire du social, si vous voulez, ou pour représenter le social, ou pour analyser le social, je m'en référerai ici à une citation de Pierre Bourdieu, qui enseigna dans ses murs, et qui me paraît résumer assez bien les choses lorsqu'il écrivait, je cite, « Il n'est pas de meilleure attestation de tout ce qui sépare l'écriture littéraire de l'écriture scientifique que cette capacité qu'elle possède en propre de concentrer et de condenser dans la singularité concrète d'une figure sensible et d'une aventure individuelle, fonctionnant à la fois comme métaphore et comme métonymie, toute la complexité d'une structure et d'une histoire que l'analyse scientifique doit déplier et déployer laborieusement. » Ce qui n'est pas tout à fait aimable pour les collègues de Bourdieu et pour Bourdieu lui-même. Toujours est-il que, voilà, aujourd'hui, on peut penser que les romanciers, du moins les romanciers d'une certaine tradition, celle qu'on appellerait peut-être rapidement et de façon très englobante la tradition réaliste, nous procurent des connaissances en matière sociale qui valent bien, ou qui sont en tout cas, qui valent bien celles des sociologues, ou qui sont en tout cas acceptables par eux et qu'ils peuvent intégrer à leur travail en quelque sorte. Cela signifie que, s'il est une sociologie de Proust, elle est d'abord de caractère spontané, décrivant les relations et les échanges sociaux sur un mode qui appartient à chacun de nous, après tout. À ce premier niveau, on entendra Proust parler de sociologie de Combray ou de sociologie des bains de mer. Dans les deux cas, il s'agit probablement d'une remarque un peu amusée, un peu plaisante, mais qui est une façon de désigner une sorte de réflexion sous-jacente à ce qui se passe dans une communauté donnée, pour reprendre le terme qui vient d'être employé. Bref, Proust est d'emblée quelqu'un, je le cite à nouveau, quelqu'un pour qui l'univers social existe. C'est l'expression qu'il réserve à un monsieur de Crécy, obsédé par les classes et les classements, sur lesquels s'indexent les membres d'une société mondaine fortement hiérarchisée. Un chapitre, comme la soirée chez la princesse de Guermantes, au premier chapitre de Sodome et... dans la première partie, pardon, de Sodome et Gomorre, semble par moments se réduire aux démarches stratégiques déployées par les différents acteurs pour assurer leur position ou gagner un degré ou l'autre dans l'échelle des rangs. Donc, si vous voulez, et pour résumer cet aspect-là, je dirais que, au fond, maintes séquences de la recherche du temps perdu, et en particulier tout ce qu'on appelle d'habitude les salons, se réduisent souvent, ou peuvent se ramener, en tout cas, à de grands échanges polémiques, dans plusieurs sens du terme, ou dans deux sens du terme, entre les participants, entre les membres d'une même soirée. Mais là, déjà, on n'est plus dans la sociologie spontanée, dans la sociologie qui vient immédiatement à chacun d'entre nous. Les stratégies des acteurs sont devenues celles-là même du romancier qui dispose, conçoit, construit avec un sens aigu de ce qu'il nomme les gradins sociaux. En tant qu'apport de connaissances, la sociologie proustienne emprunte par ailleurs deux voies majeures, et je vais essayer de les distinguer rapidement. Ce sont aussi celles, d'ailleurs, entre lesquelles les sciences sociales se partagent selon les deux ordres de contraintes qui pèsent et agissent sur l'échange entre individus ou entre individus et institutions ou entre groupes, entre classes, etc., jusqu'à l'infini, en quelque sorte. D'un côté, il y a ce qui relève des rapports de domination et de pouvoir. De l'autre, ce qui appartient aux facteurs des appartenances et de dotation. Voilà. C'est évidemment simplificateur, c'est une façon de mettre un peu d'ordre dans l'ensemble, mais ceci vaut pour la sociologie en général et ceci vaut, me semble-t-il, pour la recherche du temps perdu. Donc, et nous allons en voir des exemples, il y a ces cas qui peuvent se ranger à l'enseigne de tout ce qui est forme de domination des uns par les autres, de pouvoir aussi, de manière de... d'imposer sa loi à autrui. Et puis, d'autre part, il y a tout ce qui est héritage venant des ascendants et tels qui se retransmettent vers l'aval. Sur le premier de ces versants, c'est-à-dire celui de la domination, le romancier aime à proposer une représentation polémique des relations humaines, je viens de vous le dire. Dans Proust, sociologue, et je cite ici un ouvrage paru il y a quelques années, Catherine Bidou-Zakariasen a pu dégager une structure d'ensemble régissant la recherche et reposant sur la rivalité entre les différents salons mis en scène. Interprétation qui peut-être se discute, mais enfin qui est tout de même très forte par rapport à ce qu'on connaît du roman. Les salons en question sont le salon des Guermantes, du duc et de la duchesse, le salon du prince et de la princesse de Guermantes, le salon d'Odette Swann, le salon Verdurin, plus quelques autres qui sont évoqués plus incidemment. Et cette fois, on voit bien que le local, ce que j'appelais le local tout à l'heure, le ponctuel aussi, si vous voulez, le spontané encore, est transcendé par une construction qui englobe le roman entier. De plus, selon Catherine Bidou toujours, les différents groupes se voient mobilisés par la volonté de conserver ou d'obtenir un pouvoir, et dans ce cas-ci, le pouvoir tout culturel de fixer les règles du goût. Or, Proust, à cet égard, nous fait assister, j'ai envie de dire qu'il ait raison ou non, mais à l'évidence, il a raison, il nous fait assister à une mutation qui est considérable, c'est que ce sont peut-être ceux que l'on attendait le moins, tant le roman les crible de sarcasme à certains moments, les ridiculise, ce sont donc les représentants du salon bourgeois et en même temps de la caste bourgeoise, c'est-à-dire les Verdurins, qui vont emporter de haute lutte cette confrontation au gré d'un parfait coup de théâtre, perçu comme ridicule pendant la plus grande partie de la recherche. Ces bourgeois deviennent les arbitres du goût parce qu'ils ont su miser, c'est toujours la thèse de Catherine Bidou, parce qu'ils ont su miser sur le lancement et le succès des avant-gardes, ballets russes, Stravinsky, que sais-je encore, ou plus anciennement déjà Wagner, plus tard Debussy, enfin, etc. Et ceci à rebours de la vieille maîtrise aristocratique qui s'affirmait hier encore en détentrice de l'élégance et de la courtoisie. Donc, là où la classe noble faisait reposer sa prédominance de caractère culturel sur, par exemple, sur les règles du savoir-vivre et du comportement élégant, on voit apparaître un groupe qu'on pourrait qualifier de plus cynique, si vous voulez, qui lui va s'apercevoir qu'à ce moment du début du XXe siècle, ce qui va être discriminant, ce qui va faire office de grands critères, ce ne sera plus l'affiliation à un vieux code comme celui-là, comme celui de l'aristocratie, mais bien la prise en main de tout un bouillonnement, en quelque sorte, artistique, esthétique, et dont il va, qui émane d'ailleurs de ses rangs la plupart du temps, mais dont il va d'une certaine façon s'emparer. Donc, à ce moment-là, c'est l'incessant renouvellement des esthétiques qui fait la loi. Ce que le romancier théorise en termes biologiques, c'est un peu amusant, où là où il écrit, la phrase est connue, « les théories et les écoles, comme les microbes et les globules, s'entre-dévorent et assurent par leur lutte la continuité de la vie. » Donc, une véritable théorie des avant-gardes s'expose ici, s'exprime ici, et elle correspond assez bien à ce que l'histoire a pu en conserver. Et pourtant, l'enjeu apparent peut sembler dérisoire, comme on le voit lors d'une soirée à la Raspelière, auquel je reviendrai plus d'une fois, où une méchante querelle éclate entre les Cambremer et les Verdurins. Pour rappel, les Cambremer rendent visite aux Verdurins qui ont loué la résidence et la villa au Cambremer précisément, et donc ils viennent visiter leur propre maison qui a été chamboulée par ces bourgeois de Verdurin. Donc, ils vont se disputer, c'est ça que je voulais mettre en exergue, ils vont se disputer à propos de décoration de la maison. Alors, ça peut sembler tout à fait anodin et dérisoire, mais en fait, si l'on en croit la sociologue que je vous ai citée à deux reprises, c'est une bataille très essentielle qui se livre là, et un véritable coup de force, une prise de pouvoir qui est en train de se dérouler. J'en reparlerai aussi dans un moment. Je cite Sodome et Gomorre, qui sera d'ailleurs ma source pendant tout cet exposé. Je cite Sodome et Gomorre dans l'édition Folio, à la page 309. De temps en temps, je vous lirai d'où viennent les citations. Proust écrit ceci. À ce point de vue, Madame Verdurin, tout en passant aux yeux des Cambremers pour tout bouleverser, était non pas révolutionnaire, mais intelligemment conservatrice dans un sens qu'il ne comprenait pas. Mais pour l'écrivain, c'est, je vous le disais, c'est bien quelque chose d'essentiel qui se joue, mais vu par le petit bout de la lorgnette sociale. Cependant, si la lutte est féroce entre clans, castes et camps, elle ne l'est pas moins entre individus à l'intérieur de ceux-ci, ou lorsque les clans se rendent visite, comme c'est le cas à la Rospelière dont je viens de parler. J'ai pu montrer qu'au cours de cette soirée, qui met en présence un aristocrate de haut rang, des nobliaux de province, un aristocrate de haut rang, c'est bien entendu Charlus, des nobliaux de province, c'est bien entendu les Cambremers, des bourgeois riches, ce sont les Verdurin, quelques professeurs comme Brichot ou Cottard, et j'allais oublier un artiste, Morel, qui n'est pas là par hasard, bien entendu, et finalement Marcel, qui semble représenter une classe à lui tout seul. Donc, voilà, à la soirée à la Raspelière qui met en présence toutes ces personnes, la confrontation, si vous voulez, se transformer en ce que j'ai appelé ailleurs un jeu de bar, en référence à un jeu que vous connaissez peut-être, jeu de bar implacable, où chacun tente de prendre l'ascendant sur son voisin de table ou de jeu, et quelquefois de la manière la plus violente. Il est des meurtres symboliques, comme celui auquel se livre M. Verdurin sur le pauvre Sagnette. Sagnette ne sera pas éliminé dès cette soirée, mais il ne perd rien pour attendre. Donc, confrontation, je le répète, qui peut paraître avant tout pittoresque, mais qui en fait est très dure, très violente, très méchante, et qui fait ressortir certains mécanismes sociaux avec beaucoup de crudité et de cruauté. C'est sur ce terrain des singularités où le social habite l'individu de manière interne et presque intime que Proust met en œuvre toute sa science en même temps que tout son art. De là que le grand sociogramme romanesque fonctionne chez Proust en réseau à l'intérieur duquel un même acteur vient occuper différents points à différents moments pour être saisi dans tous ses comportements et dans toutes ses attitudes. À quoi j'appliquerai cette remarque qui m'a paru très un peu mystérieuse mais très belle, du romancier Italo Calvino. Chez Proust, dit-il, le réseau se compose de points spatio-temporels que tout être occupe tour à tour, ce qui multiplie à l'infini les dimensions du temps et de l'espace. De fait, les petites sociologies proustiennes passent largement par l'effet cumulé du réseau des positions qu'occupe un même personnage à différents endroits du roman. Et ce n'est sans doute pas sans rappeler le fameux retour des personnages balzaciens pour lequel Marcel Proust avait une attention ou même une affection particulière. Donc j'y insiste encore un instant. J'insiste un instant sur ce que j'ai dit de façon un petit peu rapide, à savoir que le social qui est ce qui se joue entre les personnages en question vient aussi de ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils ont incorporé, intégré longuement au travers de leur destinée et tel qu'ils trouvent à sortir, en quelque sorte, lorsqu'ils ont affaire à autrui. Mais j'en viens ici, car ce sera plus réellement mon objet, au second versant d'un savoir en acte et du déterminisme qu'il postule. Il y a chez Proust une fascination pour les appartenances et pour les héritages, et plus encore pour la façon dont ils sont vécus et négociés. J'en donne ici un peu rapidement un exemple que je reprends de mon travail sur Albertine Simonet. J'ai toujours été frappé par un très beau passage qui se répète d'ailleurs dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » et où il est question de la façon dont la jeune Albertine, à l'époque de l'adolescence, recueille comme un véritable lait, hein, L-E-G-S bien sûr, une série d'expressions qu'emploie sa mère et qu'emploie sa tante. Donc il y a ici transmission de langage, si vous voulez, qui n'a rien d'héréditaire à ce moment-là dans l'esprit de Proust, mais qui se fait véritablement comme une remise de, hein, et il s'agit d'expressions données à la jeune fille au moment où précisément où elle devient jeune fille et où elle va les utiliser beaucoup. C'est ce genre de choses-là, je crois, que pour le moins Proust observe finement. Donc, fascination des appartenances, des héritages, des dotations, de tout cela et de la façon dont cela se négocie d'une génération à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'un être à l'autre. Proust aime à se perdre dans les chaînes causales et les rapports de consécution. Il aime plus encore à s'attacher aux bizarreries du destin et à en dégager des sortes de lois paradoxales. On a parlé de paradoxe il y a un moment. C'est aux unes et aux autres que nous voudrions nous arrêter. Sous cet angle, la connaissance du social en l'individu, tel notamment, je vous le disais, qu'il s'incorpore étroitement, est forcément une psychosociologie. Et je pense que, oui, je veux dire par là qu'il ne faut pas, dans ce cas, vouloir départager le psychique du social, si vous voulez. À mon avis, ils sont à chaque coup étroitement entremêlés, au point qu'on peut dire que Marcel Proust est de ces romanciers qui a contribué à dissoudre les frontières entre le psychique et le social, entre la psychologie et la sociologie. Annonçant d'ailleurs de subtiles analyses, comme celles que vous trouverez chez un psychosociologue canadien, il s'appelle Irving Goffman, mais vous le connaissez peut-être ou probablement, et les théories d'Irving Goffman, notamment sur la mise en scène de la vie quotidienne, sont très souvent immédiatement applicables à certains épisodes de la recherche du temps perdu, à certaines scènes qui se produisent. D'ailleurs, un jeune proustien nommé Livio Belloy a analysé cela dans un ouvrage qui s'appelle « La scène proustienne » et j'ai envie de dire que ça marche, et ça marche très fort. Voilà, tout cela pour vous introduire à ce que je voudrais maintenant limité à une sorte de petite enquête qui vous paraîtra peut-être en effet un peu exiguë, mais je vais vous la proposer à travers quelques textes que vous avez en main et que je pense vous avez déjà lus au moins en partie. Je m'en réjouis, ça me simplifiera les choses. Mais avant de venir à ces textes, je voudrais faire un détour par Roland Barthes cité en début d'exposé et plus précisément en effet ce court article qu'il publie dans une revue en 1871 et que vous trouvez facilement repris dans le volume « Recherche de Proust » de la collection Point au Seuil. Une idée de recherche dans l'esprit de cet article qui ne fait que quelques pages, ça veut dire voilà un travail qu'il faudrait mener. Je ne le mènerai pas moi-même, mais voilà à peu près selon quel dispositif je décrirai ce phénomène propre à la recherche du temps perdu et qui, dit-il, lui paraît, dit-il, tout à fait structurant. Enfin, on peut employer ce terme comme une grande figure transformatrice et productrice dans la recherche du temps perdu. Alors, que nous dit Barthes ? Je vais résumer les choses un peu fortement, mais elles le sont déjà. En fait, il va s'attacher à observer un phénomène qu'il désignera sous deux noms, à peu près synonymes, ceux de renversement et d'inversion. Pour éviter le malentendu, mais je reprendrai le terme un peu plus loin, je vais m'en tenir au terme de renversement. De quoi est-il question ? Eh bien, je prendrai l'exemple le plus flagrant parmi ceux que Barthes retient. Il s'agit de cette rencontre de Marcel, nous sommes toujours dans Sodome et Gomorre, cette rencontre qui se produit dans un wagon du petit train et où il se trouve en présence d'une dame qui lit la revue des deux mondes, qu'il y ait deux mondes, dans le titre de la revue d'ailleurs, ne doit pas être tout à fait un accident, mais enfin la revue existait bel et bien, et elle existe encore je pense. Donc elle lit la revue des deux mondes, et cependant, elle a l'air, dit Marcel, d'une maquerelle. Voilà. Stupéfaction du lecteur peut-être, mais en tout cas, surprise, qui sera corrigée pas mal de pages plus tard, et en tout cas un train plus loin, puisque dans le même train, mais dans un autre wagon, Marcel reverra la maquerelle en question et apprendra qu'elle est la princesse Sherbatov, dame de compagnie importante de la grande duchesse Élodie. Non, c'est pas Élodie, mais c'est Eudoxie, merci. Eudoxie, j'ai une Élodie en tête. Eudoxie, voilà. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est évidemment d'abord que Barthes, avec son chic habituel, analyse ici la figure, hein, j'ai employé le terme, qui est illustrée par cette rencontre, c'est qu'elle est faite, dit-il, de deux composantes, une surprise et un comble. La surprise, c'est évidemment d'apprendre que celle qu'on méprisait est au contraire quelqu'un de haut rang, et le comble, c'est évidemment que nous avons là, entre maquerelle et princesse, deux termes totalement antagonistes et qui poussent les choses à l'extrême. Mais je m'arrête un instant ici, on revient à l'exemple en question, pour vous signaler que, tout de même, Barthes prend plusieurs autres exemples, tout en souhaitant qu'on fasse l'inventaire de bien d'autres, qu'on en fasse un inventaire serré. Alors, vous allez voir que ce sont des choses parfois très différentes. Il citera le cas de M. Verdurin, qui, lorsqu'il présente ce membre de la petite bande qu'est le docteur Cottard, s'il a affaire à une personne qui ne connaît pas Cottard, il va magnifier le personnage, en dire un bien extrême, ce qui laisse sceptique le lecteur, évidemment. Mais s'il a affaire à quelqu'un qui connaît déjà Cottard, au contraire, il va plutôt avoir tendance à le dévaluer, à minimiser ses mérites. Donc il y a de nouveau ici, mais ça ne tient pas exactement à Cottard lui-même, mais à la façon dont on en parle, il y a de nouveau cette espèce d'ambivalence, ce jeu des contraires. Un troisième exemple, puis je m'arrête, je le prends un peu comme ça au hasard. Oui, Odette Swann, dit Barthes, femme supérieure selon le jugement de son milieu, passe pour bête chez les Verdurin. Mais alors, ce qui me paraît tout à fait essentiel ici, c'est que Roland Barthes va s'interroger sur à la fois la portée sociale et la portée morale de ce phénomène dont il dit qu'il va gagner en importance tout au long de la recherche du temps perdu. Alors, quant à la portée sociale, je vous ai déjà cité en commençant cette phrase disant l'œuvre de Proust beaucoup plus sociologique qu'on ne dit, mais il va aller jusqu'à dire dès le moment où le lecteur est exercé à observer que très souvent un fait social s'inverse en son contraire, il va petit à petit en faire une sorte de règle déductive, si vous voulez, et selon laquelle, chaque fois que l'on peut s'attendre à ce que quelqu'un soit comme ceci ou comme cela, il sera bientôt, ce sera une sorte de grande loi sociale, voilà, il sera bientôt de sens inverse, hein, exactement. Donc le renversement va se produire, et ce serait un fait très général. Vous faites évidemment la part de l'humour dans ce genre de réflexion, il faut le faire. Voilà, donc, sociologie en acte, pourrait-on dire, on peut déduire les mœurs de la loi d'inversion, cependant, il ne faut pas, dit Roland Barthes, s'arrêter trop à ce contenu-là, car cette figure extraordinaire qui va devenir, c'est son terme, une véritable pandémie dans la recherche, c'est-à-dire qu'elle va gagner tout le monde pratiquement, ou du moins en puissance, qui va devenir donc une pandémie, il ne faut pas l'investir de trop de contenu. Autrement dit, c'est avant tout une figure, et en particulier, ceci intéresse peut-être les le travail que vous faites dans le cours d'Antoine Compagnon, et en particulier, cette figure, nous dit-il, n'a pas de contenu moral, car il faut bien comprendre ceci, et c'est peut-être le plus intéressant de ce qu'il avance, car il faut comprendre ceci, c'est que, a priori, on pourrait penser que la princesse Chorbatov, que la vérité de la princesse Chorbatov, ce n'était évidemment pas Maquerel, mais c'était princesse, ce qui est sa véritable identité. Non, dit Barthes, en fait, elle sera à jamais les deux. Donc, si vous voulez, il y a mise en place d'un renversement, c'est vrai, mais d'un renversement qui va survivre à titre d'ambivalence. Et Madame Chorbatov, qui fait partie du Salon Vert du Rhin, sera à jamais une sorte de personnage à la fois, mêlant à la fois indistinctement la distinction et la vulgarité avec une connotation sexuelle. Enfin, Barthes ayant ainsi évacué la morale, si vous voulez, Barthes finira par dire que ce qui est le dernier mot de ce genre d'analyse ou de description ou de figure, encore une fois, tient sans doute à l'écriture elle-même, c'est-à-dire à ce qu'on appelait à cette époque-là beaucoup le discours. C'est un discours, dit-il, de la jubilation, et d'une jubilation qui, en effet, est partiellement érotique. Je n'insiste pas trop là-dessus, mais j'y reviendrai à partir de mes propres exemples, et je pense qu'il est temps maintenant d'y passer. Alors, me souvenant de l'article de Roland Barthes, et ayant repéré dans Sodome et Gomorre quelques passages qui me semblaient tout à fait curieux, pas tout à fait différents de ceux dont on vient de parler, mais tout de même marquant quelque chose d'autre, je me suis arrêté à la collection de petits textes que vous avez sous les yeux, qui sont parfois aussi brefs que vous les avez là, mais qui sont parfois d'une étendue plus grande. Une toute première remarque, mais en quelque sorte pour l'évacuer, c'est de dire que, à quelques titres, tous ces textes sont pleins d'humour, d'un humour parfois tout à fait sarcastique. Ça frise même carrément le comique. Hein. Il y a là des gags, si vous voulez, on dirait ça si c'était du cinéma. Donc, j'en tiens compte, mais d'une façon plutôt implicite. Or, il me semble que le principe commun à ces six exemples, et sans doute à quelques autres, est le suivant, c'est que, plutôt ici qu'un renversement, nous avons affaire à ce que j'appellerais, à ce que je vais appeler par la suite, une solution biscornue. Quelqu'un qui est en effet tiraillé entre deux postulations, disons-le comme ça, entre deux tendances, entre deux appels, deux aspirations, enfin on peut employer toutes sortes de mots, finit par opter, quasi malgré lui, pour une solution biscornue, boiteuse, et qui peut à la limite s'interpréter comme un ratage. Je vous en donne l'exemple, le premier dans la liste, celui auquel d'ailleurs, qui a pour moi un caractère fondateur, et celui-là je vais le lire. C'était un de ces hommes, nous ne connaîtrons pas son nom, à qui leur expérience professionnelle consommée fait un peu mépriser leur profession, et qui disent par exemple « Je sais que je plaide bien, aussi cela ne m'amuse plus de plaider » ou « Cela ne m'intéresse plus d'opérer, je sais que j'opère bien ». Intelligents, artistes, ils voient autour de leur maturité, forcément rentée par le succès, briller cette intelligence, cette nature d'artiste que leurs confrères leur reconnaissent et qui leur confère un à peu près de goût et de discernement. Ils se prennent de passion pour la peinture, non d'un grand artiste, mais d'un artiste cependant très distingué, et à l'achat des œuvres duquel ils emploient les gros revenus que leur procure leur carrière. Le Sidaner était l'artiste élu par l'ami des Cambremers, lequel était du reste très agréable. Il parlait bien des livres, mais non de ceux des vrais maîtres, de ceux qui se sont maîtrisés. Le seul défaut gênant qu'offrit cet amateur était qu'il employait certaines expressions toutes faites, d'une façon constante, par exemple, en majeure partie, ce qui donnait à ce dont il voulait parler quelque chose d'important et d'incomplet. C'est assez féroce dans le fond, et en même temps, on ne sait pas très bien ce que celui qui parle reproche à ce pauvre médecin ou avocat, après tout, bon, faire une collection de Le Sidaner, qui est un peintre réel, vivant à l'époque de Proust, hein, au moment où il est encore en vie, au moment où ça s'écrit, c'est sans doute pas très déplaisant. Simplement, Le Sidaner n'était pas un grand peintre, le grand peintre c'était Monet, et Le Sidaner était un suiveur. Alors, il y a donc là une sorte de... quelque chose ne va pas. Et comment peut-on l'interpréter ? Remarquez, je ne m'y étends pas, mais que par petits coups d'épingle, Proust va aggraver le cas de ce pauvre homme en disant « Il parlait bien des livres, mais pas de ceux des vrais maîtres, seulement de ceux qui se sont maîtrisés. » Ou bien encore, il employait l'expression « en majeure partie » et on a presque envie de dire que il était lui-même en majeure partie. Ça veut dire qu'il y avait une partie qui ne collait pas tout à fait, si vous voulez. Il n'était qu'en majeure partie l'artiste qu'il aurait voulu être, et c'est ce qui expliquera probablement l'usage du terme en terminant d'incomplet. C'était un homme qui, à ce moment de sa vie, était incomplet. Alors, mon interprétation, je vous la livre en deux phrases, c'est l'idée qu'il y a, chez un personnage comme celui-là, deux logiques sociales qui ne sont pas nécessairement concurrentes, qui ne sont pas nécessairement opposées, mais qui, à un certain endroit, ne vont pas s'harmoniser, en quelque sorte. Et de telle sorte que cet homme, à la fois excellent dans sa profession et riche par ses revenus, lorsqu'il veut passer là où il s'arrête à sa tendance artiste, ça va donner une solution boiteuse. Voilà. C'est ce que vont illustrer encore les deux exemples suivants. Alors, je n'en conserverai peut-être que un. Oui, pour faire vite, parce que je vois que l'heure avance, alors que je m'étais promis d'être bref. Je vais prendre le plus bref, donc le plus court. Il s'agit de Monsieur de Vaugoubert, et c'est une phrase tronquée par moi. Monsieur de Vaugoubert se dandinant, par un excès de politesse qu'il gardait même quand il jouait au tennis, où, à force de demander des permissions à des personnages de marque avant d'attraper la balle, il faisait inévitablement perdre la partie à son propre camp. C'est joli ça. Et en plus, il sera le pauvre comparé à une balle de tennis lui-même à la page suivante. Enfin, soit. Mais je voudrais simplement revenir ici de nouveau à la question des deux logiques. Pour comprendre l'exemple, d'ailleurs, il faut savoir que M. de Vaugoubert, qui est diplomate, mais aussi homosexuel, a cultivé, par crainte d'être découvert en tant qu'homosexuel, il en remet, si vous voulez, dans le domaine de la politesse, de l'obséquiosité. C'est un homme qui se répand en précaution, en permission, etc., etc., vous l'avez compris. Et donc, il est pris dans cette dualité. Et finalement, ça produit un match de tennis perdu, tout simplement. Voilà, un ratage dans tous les cas. Alors, je ne résiste pas tout de même à jeter un petit coup d'œil. Oui, revenez dans mon... Je laisse l'exemple 3 de côté, également l'exemple 4. Je passe à l'exemple 5 parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et il s'agit de Madame de Cambremer, déjà citée. C'était l'époque où les gens bien élevés observaient la règle d'être aimable et celle dite des trois adjectifs. Madame de Cambremer les combinait toutes les deux. Un adjectif louangeur ne lui suffisait pas, elle le faisait suivre après un petit tiret d'un second, puis après un deuxième tiret d'un troisième, mais ce qui lui était particulier, c'est que contrairement au but social et littéraire qu'elle se proposait, la succession des trois épithètes revêtait dans les billets de Madame de Cambremer l'aspect non d'une progression, mais d'un diminuendo. C'est l'exemple que je vous donnais moi-même en disant que j'étais... ravi, heureux et content, mais elle dira aussi de Saint-Loup, voilà, qu'elle apprécie ses qualités, elle apprécie les qualités de Saint-Loup, qui sont uniques, rares, réelles, etc. Bon. Voilà. Alors, je me sers de cet exemple un peu facile, sans doute, mais pour montrer à nouveau qu'il y a là, et c'est dit d'ailleurs dans le texte, hein, les deux règles sociales, c'était l'époque où les gens bien élevés observaient la règle d'être aimable et celle des trois adjectifs. Ce sont donc ici deux codes, si vous voulez, qui sont d'ailleurs très apparentés, très étroitement proches, mais qui dont elle mésuse à une époque où ils ne sont plus tout à fait de saison, d'actualité, elle va en mésuser de telle manière que ça se bouscule. Et Proust l'expliquera très bien en disant que, trop impatiente de respecter le code de l'amabilité, elle va mettre tout le poids sur le premier épithète, et puis elle n'a plus de force, si vous voulez, pour les deux suivants. Au point, dit-il, que s'il y en avait eu un quatrième, ce n'aurait plus été un éloge du tout. Enfin, voilà. Je termine par le sixième exemple. Celui-là pourrait nous entraîner loin, mais je tiens toujours ma montre à l'œil. Et nos deux exposés vont se recouper ici, puisqu'il est question de Stuart Mill et de Lachelier. Je ne les présente plus. Ne quittant la lecture de Stuart Mill que pour celle de Lachelier, au fur et à mesure qu'elle croyait moins à la réalité du monde extérieur, elle mettait plus d'acharnement à chercher à s'y faire avant de mourir une bonne position. Éprise d'art réaliste, aucun objet ne lui paraissait assez humble pour servir de modèle au peintre ou à l'écrivain. Un tableau ou un roman mondain lui eussent donné la nausée. Un moujik de Tolstoï, un paysan de Millet, était l'extrême limite sociale qu'elle ne permettait pas à l'artiste de dépasser. Mais franchir celle qui bornait ses propres relations, s'élever jusqu'à la fréquentation des duchesses, était le but de tous ses efforts, tant le traitement spirituel auquel elle se soumettait par le moyen de l'étude des chefs-d'œuvre restait inefficace contre le snobisme congénital et morbide qui se développait chez elle. Celui-ci, et c'est ça que j'aime le plus, celui-ci avait même fini par guérir certains penchants à l'avarice ou à l'adultère, auxquels étant jeune, elle était encline, pareil en cela à ces états pathologiques singuliers et permanents qui semblent immuniser ceux qui en sont atteints contre les autres maladies. Voilà. Donc, oui, double remarque ici. La première, c'est que toute une partie de ce petit développement relève plutôt des renversements barthiens, enfin relève en partie au moins des renversements barthiens, et il y a même un assez beau chiasme entre le spiritualisme de Lachelier et l'ambition de Madame de Cambremer, et d'autre part le réalisme en art, et d'autre part le désir d'égaler les duchesses, ou du moins de pouvoir les fréquenter. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de nouveau l'espèce de faux pas de solutions biscornues dont nous ne saurons rien d'autre, pour laquelle nous n'aurons pas d'explication, qui veulent qu'au fur et à mesure où elle persévère dans ce snobisme éperdu et qui ne produit rien, elle va de plus en plus se guérir de ses penchants à l'avarice et à l'adultère, ce qui est quand même un couple assez amusant. Voilà. Alors, partant de ces quelques exemples, il me reste peut-être les quelques minutes qu'il me faut pour conclure. Les passages qui viennent d'être parcourus relèvent de ces anecdotes mondaines dont l'écrivain aime à truffer ses romans. Ils valent par leur saveur et leur humour, et on pourrait ne pas aller au-delà. Retenons tout de même la portée discrètement satirique, leur portée discrètement satirique, le romancier épinglant au passage tel artiste peintre, la métaphysique, les représentants d'écoles philosophiques antagonistes. Mais nous savons que l'anecdote proustienne est rarement anodine et qu'elle se révèle de grande portée le plus souvent. Dans le cas présent, la cocasserie même des scènes rapportées se laisse d'une cruauté qui met en alerte. En chaque occurrence, le paraître social est rudement mis en question à la faveur d'un ratage dans l'attitude ou le comportement. On en revient ainsi à l'idée des deux logiques, à leur télescopage et à la catastrophe toujours terriblement locale que produit ce télescopage. Soit un trajet narratif qui, au gré des exemples, fait stylistiquement figure, une figure marquée par le contraste entre un démêlage laborieux des causes, dont certaines demeurent opaques, et la mise en valeur ponctuelle de l'effet final. Quelques mots suffisent à nous étonner. On peut y reconnaître une conviction qui a produit de nombreuses marques dans la recherche, à l'intérieur d'un même destin, se nouent des rapports entre nécessité et contingence qui sont d'une grande complexité et peuvent se traduire par des réfractions en chaîne qui rappellent le mouvement de la boule de billard. Mais si l'on s'en tient au croisement des deux logiques, la sociologie contre-proustienne fait voir qu'il n'est perturbé chez les uns plus que chez les autres, en fonction d'une capacité à mettre de l'ordre ou non dans ses volontés et penchants. Or, pour passer des attitudes au statut, on peut avancer l'hypothèse que les destins perturbés sont le fait de personnalités socialement hybrides. Madame de Cambremer, jeune encore, puisqu'elle... C'est Madame de Cambremer, jeune encore, qui en est la meilleure illustration, puisqu'elle cumule en elle trois appartenances. Elle est bourgeoise d'origine, le Grandin, de noblesse provinciale par mariage, de haute noblesse en rêve et en aspiration. Retraduit névrotiquement, ce triphasage rend préclair les moindres stratégies d'un personnage au snobisme éperdu. L'hybridité de Madame Sherbatov, celle d'une déclassée, est tout aussi patente. Les autres cas sont peut-être moins nets, sauf à dire que l'être du philosophe norvégien, on n'en a pas parlé, est lui-même antiphrastique. Je me demandais si Proust connaissait le danois Kierkegaard, mais c'est d'un Norvégien qu'il s'agit. Occasion de noter que le roman moderne a toujours été friand d'êtres hybrides et qu'il y aurait à dire de la pluralisation du personnage chez Proust. Quant au ratage lui-même, il est tout relatif, ayant parfois l'air d'avoir été inventé de toutes pièces pour les besoins de la cause et le plaisir d'en rire ou d'en faire rire. Ce qui est sûr est qu'il est l'indice révélateur de quelque chose qui ne va pas, d'une anomalie, d'un boitement. Oui, se trouvant en compagnie, les personnages évoqués sont disgracieux à quelque titre, ce qui se marque jusque dans leur physique. Madame de Cambremer, mère, salive à l'excès. Madame de Cambremer, fille, est vue comme une plate galette normande. Si l'idée de boitement mental et social dit assez bien les choses dans la série Mise au jour, il faut bien voir que les carottes nues ne circonscrivent qu'un petit secteur dans un champ bien plus large et qu'il y aurait lieu d'inscrire les logiques doubles, ce que j'ai appelé les solutions biscornues, dans l'espace plus large des nombreux quiproquos, gaffes et baise-vues qui peuplent la recherche du temps perdu. De quoi parler d'une tératologie proustienne très sui generis? Toute la soirée à la Raspelière appartient à ce registre. Ainsi, l'arrivée du baron de Charlus à cette réunion aurait pu être incluse dans notre série, puisque, toisant d'abord les invités du haut de sa majesté et estimant qu'ils débarquent dans un mauvais lieu, c'est ce que dit Proust, le baron se laisse instantanément gagner ensuite par une logique autre et laisse sa nature féminine le submerger et le donner en spectacle. Ratage flagrant, très chargé de sens que celui-ci. Ratage qui se produit en surplomb de la grande séquence à la Raspelière, où la figure de l'ajustement malheureux des logiques va prendre une bien autre dimension, largement collective. J'y reviendrai une autre fois. Merci.